Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, on est dans le Super Moscato Show. Vous le savez qu'on est sur RMC tous les jours, de 15h à 18h. Vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous sommes avec Philippe Saint-André. Comment il va, Philippe ?
Salut Vincent, salut à tous.
T'es en forme ?
En pleine forme.
Olympique, ouais. Très bien. Éric Dimeco.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Comment ça va, Vincent ? Salut Philippe.
Salut
Pierrot. Comment ça va alors ? Ça se passe bien là-haut, les barbecues, tout ça ?
Tout ça, tout très, très bien. Très bien. Il fait beau, c'est un peu humide.
Ouais, hein. Il me semblait qu'il faisait beau.
Affreux, un très beau mois de novembre.
Le ciel nous tombe sur la tête.
Le plafond est bas, il grêle. T'as un scooter, tu te prends des pluies, des tonnes
d'eau
sur la tête.
C'est très désagréable de prendre des sauts de pluie en scooter. Certains, d'ailleurs, font demi-tour et rentrent à la maison.
Oui, mais tu sais, quand tu prends ça dans la bouche, là, tu sais qu'il fait froid et tout, là, que ça te tape là, ça fait mal.
C'est la grêle qui te tape sur les dents, ça t'abîme les mailles et tout, c'est affreux.
Comment ça, Vincent ? Alors, je crois que Vincent, il pense qu'il y a quelqu'un. Je sais pas qui décide du temps, parce qu'il t'arrive au travail tout à l'heure, il dit mais qu'est-ce qu'ils foutent avec ce temps. Si Vincent Moscato était manager du Stade Toulousain depuis le début de la saison, si au début de la saison on avait dit Vincent, tu quittes la radio, au 1er août tu deviens manager du Stade Toulousain, l'équipe serait-elle leader du top 14 actuellement? Vous répondez oui ou non?
C'est une question.
C'est exceptionnel.
Comment ça te vient, ces bêtises?
On me l'a proposé.
C'est les auditeurs. C'est les auditeurs. Je crois que les auditeurs sont plus vicieux que nous.
Si Vincent Moscato était manager du Stade Toulousain depuis le début de la saison, serait-il leader? Eric Dimeco répond oui.
Moi je dis oui.
Philippe.
Le doublé.
Pierre Dorian.
Moi je sais pas, mais je vais me fier aux experts. Vincent nous a dit un jour que le chauffeur du bus serait champion de France avec Toulouse, donc oui. Vincent sera champion.
Oui, mais attention, j'ai pas le permis,
Moi pour une fois je vais répondre, parce que je me fie aux experts, aux grands joueurs comme Dimitri Yajvili.
Oui.
Antoine Burban,
voilà.
Qui m'ont dit que Vincent Moscato les a régalés en tant que coach. Donc je réponds.
Moi j'ai une autre question.
Vincent
Moscato
leader.
J'ai une autre question.
Si,
parce
tu les as régalés, ils se sont éclatés avec toi.
Adrien, j'ai une autre question parce que je pensais que tu allais être plus vicieux que ça. Moi j'allais demander si Vincent Moscato était manager du MHR, est-ce qu'il serait
relégable. Est-ce qu'il serait 13e? Eh bien,
moi je pense que.
C'est non.
La question est plus vicieuse.
Est plus vicieuse. C'est pas assez vicieux, Adrien.
Je pense que c'est un vrai métier, crois-moi.
Tu te verrais prendre le Stade Toulousain là ?
Non, là, t'es fou, je suis largué complet.
Non.
Mais si, les méthodes, les machines, ça fait 20 piges.
La méthode, c'est simple, c'est leur dire qu'ils sont les meilleurs.
Non, mais d'accord.
Ils ont ça en eux.
Après, c'est un métier, quand même, les gars.
L'écusson qui fait le boulot, les trois quarts du boulot, c'est quand tu mets le maillot, il y a l'écusson sur le torse. Trois quarts du boulot.
D'accord, déconne pas, mais je fais ça.
Les joueurs te badaient au pied.
Oui, non, mais là, il me bat dessus, il y en a plein qui sait que je suis.
Tu sais que Vincent m'a amené Dimitri Yachvili, j'en ai
le bien sûr.
Il m'a dit, il n'a rien à faire avec nous.
Toujours,
il a 18 ans Dimitri avec
et il a fait sauter Go Marshall qui était titulaire de l'équipe d'Angleterre. Lui il n'est pas contre
on a fait 50-50 pour la commission.
Non mais ça va, il faut être juste sport de PS pour être entraîneur de rugby. Tu les mets sous les barres, tu les mets sous les barres tous les matins.
Quentin, nous avons une contre-question moyenne. Si au 1er août dernier 2023 Éric Dimeco avait pris l'OM, est-ce qu'il s'est qualifié pour la Ligue des Champions?
Mais moi je n'ai jamais été entraîneur.
Mais alors, tu connais le foot quand même? Tu connais le foot?
Mais la réponse c'est non.
Moi je dis non parce que tu pourrais pas les supporter.
Mais Bessa a été coach.
Mais
il est légitime.
J'étais coach un peu au puc et en Racing.
Il a sorti des grands joueurs.
La parole au joueur entraîneur du VTF, c'est Pierre Dorian. C'est à toi, Pierre.
Pour Eric ?
Non, pour le programme.
Non, mais de toute façon, il y a un problème d'effectif
et de patience, je pense.
Ouais, bon, on va donner.
Vincent, Gomarsal, c'est un des rares Anglais qui n'avait pas le boulard.
Gomarsal
énorme boulard.
Boulardard, c'est con, mais écoute-moi. De toute façon, ils se touchent, le boulard.
Là, qui l'a pas, c'est Johnny Wilkinson.
C'est vrai
ouais, que c'est une exception. Ouais,
Johnny n'a pas besoin d'avoir le boulard. C'est un boulard lui-même. Il n'a pas besoin. Il est bon. C'est Robert Redford. Et en plus, il est bon au rugby. Qu'est-ce que tu veux que tu tout dans la vie. Il fait des mathématiques quantiques. J'ai jamais su ce que c'était. Bon, là, c'est un truc de fou.
Fais attention parce que. Extérieurement, il a, beaucoup d'humilité. Mais à l'intérieur, il supportait aucun d'autres demi d'ouverture dans le monde. Hein.
Ah, d'accord.
C'était un
vrai compétiteur. Était un gros con, c'est normal, c'est un compétiteur incroyable,
un gros défenseur, et sincèrement je lui disais ce demi d'ouverture il est pas mal, il dit non il a pas le pied gauche.
Ça c'est bon, ça.
Alors le rugby, on va en parler à 17h, c'est le spécial du rugby avec Midi Olympique. On se concentre sur les deux dernières journées du top 14. Toulouse doit-il tout faire pour éliminer La Rochelle? Il y a un Toulouse-La Rochelle ce week-end. Ouais,
bah oui.
C'est tendu pour La Rochelle. Toulouse peut voir venir. Hein. Mais est-ce qu'il faut absolument les sortir maintenant plutôt que de risquer qu'ils se qualifient? D'abord, Pogacar peut-il devenir le plus grand? On parle de Pogacar le plus grand que tous les autres grands cyclistes de l'histoire maintenant. Hein. Et puis Saint-Étienne joue ce soir le match aller du barrage pour monter en Ligue 1 face à Metz. Saint-Étienne, club du passé ou de l'avenir? Vincent règle le problème sur RMC. Journal moyen, première édition à 15h45, Adrien.
On va prendre une nouvelle expression grâce à une députée, Vincent. On aime bien, nous, apprendre de nouvelles expressions dans le journal moyen, première édition. C'est la grosse librairie, une histoire de renard et de queue. Rendez-vous 15h45.
La queue de renard.
Et puis malgré la pluie qui tombe à Paris, il y a quelques matchs à Roland-Garros sur le central et sur le Lenglen. On va faire le coup avec Anthony Reich. Salut Anthony.
Salut les amis. Eh oui, ça continue de jouer. Hein. C'est la magie des toits sur le Châtrier, le Lenglen. Mais il pleut en ce moment. Un bon match, un beau combat là sur le cours central en ce moment entre Elina Svitolina et la jeune Française Diane Paris, tout juste 21 ans, qui vient d'égaliser à 5 jeux partout dans le deuxième set. Elle a perdu la première manche 6-4. Et sur le cours Suzanne Lenglen, c'est Alexander Zverev, le tombeur de Raphaël Nadal, qui est opposé à David Goffin, l'Allemand, qui mène 1-7-0. Il vient d'empocher le set au jeu décisif. À noter les qualifications de Grigor Dimitrov, Arina Zabalenka et Sébastien Korff.
Et puis bien sûr, il y aura un Kikadi à 17h45 pour gagner votre paire de baskets tendance et confortable de la marque Wiz. Kikadi par SMS au 7-32-16. Tout de suite, faut-il être un bluffeur pour gagner?
RMC, le Super Moscato Show.
On est un peu quand même étonné par la performance de Tadej Pogacar.
Tu bluffes, Martini. Il bluffe. Pas sûr.
Tadej Pogacar qui va s'imposer sur tous les plans sur ce Tour de France.
Il bluffe là, ça se voit tout de suite.
Il arrive au sommet de la planche des belles filles avec près d'une minute trente d'avance.
T'as pas l'air de bluffer là quand même.
Il va aller remporter l'étape, c'est évident. Est-ce que lui va se rendre compte de l'exploit?
Si, il bluffe là.
On regardera les délais, c'est incroyable ce que vient de faire Tadej Pogacar.
On vote. Moi je vote et je dis il bluffe.
Mais Tadej Pogacar semble quand même très très fort.
Je vais voter, il bluffe pas. Breaking
news. Moi je suis scandalisé, donc je vais devoir faire une mise au point personnel. Parce que je vous avoue que pour une fois, c'est très rare, je n'ai pas compris le sens de ce qu'on vient d'écouter.
Oui.
Voilà. Frédéric prépare avec son ami Loïc Pelletier des illustrations censées nous faire rire, mais pour une fois, je n'ai pas compris. J'aurais même attribué la note de 0 sur 20.
Oui. Il ne bluffe pas Pogacar, en fait.
Mais alors, Fred vient de m'avouer la vérité.
Alors, ils se sont trompés de débat.
Non, c'est accès de flemme maximal.
Ah oui.
Non.
Ils ont recyclé une illustration sur un débat qui était Pogacar bluffe-t-il il y a 2 ans. Zéro travail. Alors que je m'en suis rendu compte vers 14h20 qu'il était totalement temps de refaire. Eh bien, ils ont menti. Ils viennent d'avouer leur mensonge. Je suis scandalisé.
On a pris un truc qui a plus rien à voir maintenant avec
Pierrot, ne t'inquiète pas, la future direction marseillaise a tenu. Ils seront châtiés.
Alors, si c'est les Marseillais, ça va pas trop les gêner que les mecs ont récupéré un truc.
Je pense que c'est le barbecue sous la pluie d'hier soir.
C'est ça. Ils ont pris froid et les mecs, ils en veulent plus du mastic.
La mise au point a été faite. Donc maintenant, on va parler de Pogacar, qui a vraiment écrasé tout le monde sur le Giro et qui s'attaque au Tour de France pour un un doublé digne des plus grands, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Pogacar peut-il devenir le plus grand de l'histoire? C'est notre débat tout de suite. Il y a du boulot avant de rattraper Eddy Merckx. On va faire le point avec Arnaud Souk tout de suite. Et même Bernard Hinault, ouais. Vous allez voir, les palmarès sont dingues. Mais tout de même, si on cumule Grand Tour et Classique, il est déjà très haut, Pogacar. Salut Arnaud.
Salut les copains. Arnaud. Effectivement, déjà très haut, le petit cannibale de Comenda. Déjà donc deux Tours de France, un Tour d'Italie, six monuments à son palmarès. Les monuments, ce sont ces cinq grandes classiques, ces courses d'un jour les plus prisées du calendrier. Alors comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire dans l'histoire du vélo, des coureurs qui ne sont pas très nombreux à avoir à la fois autant brillé sur les grands tours que sur les classiques, et ce dans la durée. Citons les trois plus emblématiques, Fausto Coppi l'italien, Bernard Hinault le breton et Eddy Merckx le belge. Si l'on prend le seul critère de l'âge, hein, finalement c'est le critère le plus objectif, Tadej Pogacar est en avance sur les temps de passage de Fausto Coppi qui à 25 ans n'avait gagné qu'un seul de ses sept grands tours et pas un seul des neuf monuments qu'il comptera finalement à son palmarès. Comparons désormais à Bernard Hinault. Sur les monuments, Pogacar en compte déjà un de plus que le français qui n'en a gagné que 5 dans toute sa carrière et autant de victoires que le blaireau n'en comptait sur les grands tours à 25 ans. Hinault qui en gagnera finalement 10. Enfin, le sommet absolu, le Golgotha de Pogacar reste et devrait rester Eddy Merckx, le cannibale aux 11 grands tours et 19 monuments, avait déjà un palmarès extrêmement étoffé à 25 ans. Il sera très difficile pour le Slovène de le rattraper. N'en reste pas moins que Pogacar est probablement déjà l'un des tout meilleurs coureurs du 21e siècle. Un succès sur le Tour de France en juillet et il deviendra avec 4 grands tours le 11e cycliste le plus titré de l'histoire sur les courses de 3 semaines. Il deviendrait aussi le premier depuis Pantani réaliser le doublé Giro Tour. C'était en 1998.
Comme on est chauvin, on va quand même rappeler que Bernard Hinault est champion du monde.
C'est vrai. Oui. Eddy Merckx, c'est vrai.
On est chauvin.
Voilà. On est chauvin.
Ah, bah, quand même. Bah, oui, bureau, c'est le bureau, quand même.
Ça lanche.
Alors, t'as entendu quand même, les chiffres sont impressionnants. C'est-à-dire qu'à son âge, il est presque en avance sur tout le monde, à part Eddy Merckx, en gros. Est-ce que tu l'imagines, devenir le plus grand? Il y a tout de même l'actualité qui est très importante. Parce qu'on le sait, cette année, il veut faire un doublé qui ne se fait plus depuis 98. Mais, on pensait qu'il serait presque seul au monde. Ça sera peut-être pas le cas parce que Vingegaard est déjà de retour à l'entraînement.
Oui, alors, quasiment deux mois après sa très grave chute, hein, sur le Tour du Pays Basque et ses multiples blessures à l'épaule, aux côtes et aux poumons, la rééducation du double tenant du Tour de France suit son cours et c'est plutôt positif en tout cas. C'est ce que nous dit le quotidien danois BT. Vingegaard a rejoint la station de Tignes en Savoie en début de semaine pour attaquer une préparation supposée l'habituer aux très hautes altitudes, comme il y en aura beaucoup sur la route de la Grande Boucle cet été. Une préparation type Tour de France, même si pour l'instant rien n'a encore été décidé quant à sa participation. Vingegaard, déjà sur le vélo à Majorque, hein, tout de même la semaine dernière, avait pu grimper 4 cols et faire également quelques descente pour retrouver des sensations. À Tignes, son stage aura tout d'une préparation normale, du volume, des massages, des coureurs qui vont le rejoindre, des coéquipiers qui vont le rejoindre après le Dauphiné le 9 juin. Reste à savoir donc s'il fait le tour, dans quelle mesure il sera capable de lutter avec Pogacar, qui est vraiment stratosphérique quand même depuis le début de la saison. Pogacar qui lui avait payé pour voir l'an passé, puisque souvenez-vous, il était venu sur le tour avec le poignet un petit peu cassé, ou en tout cas insuffisamment remis d'une blessure au poignet. Il n'avait pas pu rivaliser avec Vingegaard.
Ça va être un peu chaud quand même, non, c'est trop court, non?
Bah, le problème, c'est les poumons, quoi.
Oui, mais ça lui fait quand même une concurrence bien supérieure.
Oui.
Oui.
Parce que de toute façon, ça en fera un de plus, même si c'est pas du grand Vingegaard. Donc le tour, c'est plus difficile que le Giro. Hein.
Après, la capacité de Pogacar, s'il veut faire le doublé, c'est de garder sa forme ultime, là, d'être tout en haut pendant encore 3 semaines. Et ça, c'est le plus dur. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il arrête. Donc ne pas arrêter, c'est aussi emmagasiner de la fatigue. Ça veut dire arriver sur le tour avec une grande forme, mais aussi peut-être une fin de tour un peu compliqué, c'est quand même, il va pas falloir qu'il se trompe. Après, pour être le plus grand, c'est pas possible.
C'est impossible.
Pourquoi? Merckx, c'est quand même.
À son âge, il est très jeune, hein.
Oui, mais quand il a 25 ans. Oui, mais il peut tomber, il peut avoir des accidents. Ouais, regarde, Vingegaard, c'est quand même. Si t'avais un billet à mettre, oui, non, ça passe juste, Vingegaard. Et donc, si t'as un billet à mettre, tu le mets pas sur. S'il y a un concours à faire entre Merckx et lui, moi, je mets un billet sur Merckx, quoi. C'est incroyable ce qu'il a fait, le cannibale, c'est pas, pour moi, c'est inégalable. Donc, il sera pas le plus grand. Pour moi, il sera pas le plus grand. Ça restera Merckx. Après, il y a Hinault. Déjà, faut attaquer le palmarès d'Hinault, qui a été champion du monde, tout ça. Ça risque d'être dur aussi. Lui aussi, il a fait ce doublé Giro.
Cinq Tours de France.
Attendez, les gars, on attendait Froome. On pensait que Froome, il pouvait péter tout. Et au bout de trois, oui, il est tombé. Mais
il a gagné quatre quand même, hein, des Tours de France.
C'est pas cinq. C'est comme Schumacher. Il en a gagné six ou sept. Les autres derrière,
Verstappen, pour l'instant, il n'y est pas encore. Hein.
Voilà. Et voilà. Il s'est arrêté à 7,
mais
voilà. Il pouvait en prendre
10. Donc, oui, si on dit le plus grand, moi je te dis, mais c'est tout l'Orion.
Tu me parles en occident.
Ah oui, oui, comment ça? Ça m'étonnerait.
Mais Soulario.
C'est très joli.
Vincent, sur cette saison-là, Tadej, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Quand tu vois sur la dernière course, il se balade, il gagne toutes les courses, il y a une différence incroyable. Donc je pense qu'il est capable cette année de faire le doublé Giro et Tour de France. Et là, il se rapproche très très rapidement de Bernard Hinault. Alors après, c'est vrai qu'il va falloir aller chercher Eddy Merckx, mais sincèrement, là, cette année, on voit pas qui va lui, à part accident, à part blessure, à part chute, sincèrement, il est... Ah non, mais il y a lui et les autres actuellement.
Non, mais d'accord. Eric, vas-y.
Le gros problème quand on fait ce débat-là, c'est qu'il y a un mec qui est inatteignable pour moi. Merckx pour moi est inatteignable. C'est ce qu'il a fait. Alors dans une autre époque, et c'est pour ça que c'est difficile.
Mais imagine, je ne sais pas que Pogacar une année fasse le triplé. Giro, Tour de France, Vuelta.
Ah, il pourrait s'asseoir à la table,
par exemple, hein.
Pour s'asseoir pour dîner, oui, à la table d'Eddy Merckx.
Jamais il s'aligne sur le 3.
Si il gagne
le Tour de France, qu'est-ce qu'il va faire le Tour d'Espagne cette année?
Ouais, c'est ça le problème, c'est que si jamais il gagne le Tour de France, même si c'est pas prévu, il va peut-être y aller. Hein.
Il va peut-être y aller. Enfin, cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concurrence.
C'est vrai que Vingegaard, il ne sera pas au niveau qu'il était les deux dernières années. Après, il restera du bon monde.
S'il gagne Roland Garros, c'est sûr que Merckx il n'a pas gagné.
Eric.
Oui.
Il peut pas aller chercher Merckx.
La seule manière c'est de faire le triplé. Après, ça dépend de l'adversité. Dans ce sport aujourd'hui qui est devenu très dangereux, ça a toujours été dangereux d'ailleurs le vélo. Je sais pas pourquoi je dis aujourd'hui mais c'est vrai que ça tombe beaucoup. On a fait le débat sur les oreillettes, pas les oreillettes, la manière de rouler. Ouais, mais c'est vrai que si jamais il y a des mecs qui se blessent autour de lui, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de talent. Mais moi j'ai l'impression que les mecs d'avant là vont être difficiles à toucher. J'ai l'impression.
Il va falloir enchaîner, c'est dur. Même physiquement, est-ce qu'il va pas pouvoir faire le même tour que sur le Giro? Il va pas vouloir tout écraser, gagner toutes les étapes.
Il faut être quand même très très honnête. La concurrence sur le Giro, elle était quand même loin d'être à la hauteur.
Il a
assumé, oui, mais il s'est pas beaucoup fatigué. Honnêtement, il s'est quand même pas énormément fatigué. Il va arriver sur le tour.
C'est quand même un truc fou. On dit pas beaucoup de concurrence.
Il gagne combien d'étapes?
Il en gagne 5.
Sans se fatiguer, Vincent, t'imagines?
Sans se fatiguer, il gagne 5 étapes. Donc il a gagné le Giro en claquette avec le
Bob.
On dit pas beaucoup de concurrence sur le Giro, c'est vrai. Sur le Tour, ce sera peut-être vrai. Sur les classiques, c'est pas vrai du tout. La concurrence est monstrueuse.
S'il fait deux tours, Giro et Tour de France cette année.
La concurrence était monstrueuse, effectivement, sur Milan-San Remo. Et il a été battu sur Milan-San Remo par plus fort que lui, encore une fois. Elle était quand même un petit peu moins importante sur les Bastogne-Liège. Et il a écrasé pour le coup les Bastogne-Liège.
Ça ne rate pas compte dans le palmarès. On regarde pas qui c'est qui est à côté de lui. Sur le palmarès, c'est gagné ou pas gagné.
C'est pour les gagner. Ça sera très très difficile à atteindre. Si je peux donner mon avis et juste faire un petit peu de mathématiques, il est déjà à 3 grands tours. Ouais. En admettant qu'il gagne le Tour de France cette année, il sera à 4 grands tours. Il lui manquera plus que 7 grands tours à gagner pour atteindre les 11 grands tours.
C'est énorme.
C'est beaucoup et peu à la fois. S'il a 10 ans encore de carrière, ça veut dire qu'on peut l'imaginer gagner peut-être un grand tour par an pendant 7 ans et être au-dessus. Ça le fait. En tout cas, c'est pas impossible mathématiquement.
Nous accueillons Philippe au 32-16. Bonjour Philippe.
Philippe, professionnel. Oui, bonjour. Bon, ça fait un petit peu rire, hein. Ça fait de vous entendre. Enfin, j'ai l'impression, pourtant, il y a des anciens dedans, là. J'entends, il y a des footballeurs, il y a tout ça, et il y a pas mal de monde qui ont quand même de l'expérience au niveau, c'est qu'à de le dire, hein. Moi, j'étais sportif de haut niveau pendant longtemps, et j'étais 2 ans, donc, chez Renault Gitane en 1984, et moi, j'ai gagné l'étape du contre-la-montre par équipe à plus de 56 km/h, en tournant, bien sûr, avec 9 équipiers. Hein, c'était pas moi le leader, hein, à l'époque c'était Laurent Fignon.
Mais comment tu t'appelles? C'est
Philippe Saudet.
Moi c'est Philippe Saudet, vous pouvez regarder, hein, si je vous raconte pas de bobards.
Continue ton raisonnement.
Il y avait Charlie Mottet dans ton équipe.
Exact, voilà. Il y avait Mottet, il y avait Guaigne, il y avait Montéour, il y avait Martial Gaillan, il y avait Bruno Wojtinek. Il y avait Charlie Mottet, il y avait Salomon.
Ils sont tous morts.
Qu'est-ce qui t'étonne quand on discute?
C'est malheureux, mais bon, il y a Pascal Jules. Bon, il n'était pas là avec nous, mais ce Pascal Jules est mort. Le petit Christian Corre, il est décédé. Il y en a beaucoup.
Ah, ouais, ouais.
Il y en a beaucoup. Alors, donc, moi, ça fait un petit peu rire. C'est parce que, enfin, ça fait rire, mais je regarde plus le vélo parce que ça me saoule un petit peu de voir tout ce qui se passe. Et vous parlez, en fin de compte, de plein de choses, mais sauf, en fin de compte, de l'essentiel. Montez, vous rendez compte, ils ont monté 5, 6 cols, il a gagné 6 étapes. Il a gagné 6 étapes. Et je peux vous dire que moi, je faisais les pieds de col pour Laurent Fignon. C'est-à-dire que sur un col de 15, 17 km, j'essayais de faire le premier kilomètre à fond pour m'écarter en tant qu'équipier, bien sûr. Et après, faire la passation par étage, hein, comme une fusée. Chacun avait son relais à passer pour mettre en orbite, bien sûr, les leaders.
Donc,
mais maintenant, les équipiers sont presque des leaders. Maintenant, les équipiers sont presque des leaders. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas fatigué. Il monte l'école et en rigolant, je disais encore l'autre jour à des copains, mais il va falloir mettre des ballots de paille dans les montées, tellement qu'ils vont vite.
Ouais, mais où veux-tu en venir? Qu'est-ce qui te fait rire quand tu nous entends? Je n'arrive pas à voir le rapport.
Ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression, mais ça c'est le sport de haut niveau, on parle de tout sauf de la réalité de terrain. Sauf de la réalité. Mais ce que je vous dis là, c'est valable pour tout. Hein.
Mais quel est le fond de ta pensée?
De quelle
réalité tu parles?
Tu
veux
parler de dopage, non? C'est ça?
Il roule à 60 à l'heure sur le plat.
Tu as des doutes, c'est ça? Dis-le, si tu as des doutes. Tu peux le dire.
Pas de problème, t'es pas ni le premier, ni le dernier, ni le seul.
J'ai été ce qui se passait encore pire en Italie. Et le plus gros scandale, c'est même pas le cycliste. C'est le football. Le plus grand laboratoire, c'est la Juventus de Turin.
La Juventus, c'est un dossier il y a une vingtaine d'années. Ça a été, je crois que ça a été jugé, prouvé, etc. Le cyclisme, il y a eu des affaires de dopage qui sont sorties. D'autres probablement ne sortiront jamais. Soit.
T'as des suspicions.
Mais si tu veux, on peut pas. Nous, on va pas dire. Oui, on a des doutes. Pogacar est dopé. Ça n'a aucun sens. Il faut s'appuyer sur des faits.
Non mais c'est surtout.
C'est juste ça, Philippe. Il faut s'appuyer sur des faits. Si on n'a pas de faits. Ça sert à rien de discuter dans le vent.
Mais je discute pas dans le vent, moi. Ce que je vous dis, c'est la réalité. J'y étais, moi.
Philippe.
Ce que je vous dis, c'est pas des on dit comme
j'entends. Quand vous parlez de la vitesse, vous occultez quand même l'évolution du matériel, vous occultez quand même plein de choses, l'évolution de
la
route. Vous vous rendez compte de rouler à 60 à l'heure? Ce que ça veut dire?
Non mais Philippe,
oui 60 à l'heure, avec le matos qu'ils ont, oui, ça m'étonne pas.
Et Philippe,
il s'est passé la dernière étape ou là, quelques étapes où ils ont monté dans le Tour d'Italie. Cette année, j'ai regardé, j'étais dans mon canapé, mais je me dis, je les ai vus, les cols que j'ai montés, mais je dis, mais c'est hallucinant. Alors, ce qu'il a fait.
Ouais, non, mais Philippe,
pour revenir au
Tour d'Italie. Vous avez vu ce qu'il a fait? Ça va faire voir dans les
Philippe,
écoles de vélo.
Philippe, écoute-nous, parce que sinon, ça va pas être possible.
Non, mais Philippe, donc, on te fait rire parce que on n'a pas évoqué la possibilité de dopage de Pogacar. Mais par contre, on t'a pas fait rire de pas évoquer la possibilité de dopage de ceux qui sont, dans l'histoire aujourd'hui. Parce que si on s'amuse à faire ça, le débat, il est mort. Parce que du coup, on met des doutes sur Pogacar, mais du coup, on est obligé de mettre des doutes sur l'histoire du cyclisme et le palmarès des grands champions de l'époque.
Ah mais non mais attends là c'est pas ce que je dis là vous êtes complètement à côté de la plaque hein.
Il parle pas du stade français. Il parle pas du stade français 98.
Il existe depuis la nuit le dopage existe depuis la nuit des temps.
Et donc,
ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est pas les mêmes produits qu'ils utilisent, c'est tout. Et par contre, ça fait peur ce qui va se passer dans les années à venir avec le clonage, l'intelligence artificielle.
Mais
alors là par contre Philippe,
c'est une catastrophe qui va se passer.
Oui, par contre Philippe, le lendemain ce sera pas le Pogacar, ce sera son clone. Il y a une chose, on est tranquille d'une chose sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne sera pas dans le rugby.
Merci Arnaud Souk. Dans un instant, nous allons accueillir un grand monsieur.
Ah, il était bon là, sondé là.
C'est Patrice Canaillet qui disputera demain avec Montpellier son dernier match en tant qu'entraîneur. À tout de suite.
15h27, le Super Moscato Show, on est tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h32, le Super Moscato Show avec Eric Dimeco, avec Monsieur Philippe Saint-André, Adrien Guépiro.
À 16h, on parle des Verts Saint-Etienne, club du passé ou club du futur? Vincent règle le problème sur RMC. D'abord, le handball.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
Une légende du handball français va coacher son dernier match demain sur le banc de Montpellier après une carrière de 30 ans. Patrice Canaillet est l'invité du Super Moscato Show.
Comment il va?
Très bien.
Il est en forme.
Salut
Canaillé.
Salut Patrice.
Salut, ça va. Ça va. C'est un peu une semaine un peu difficile, mais ça va.
En tout cas, émouvante. On va y revenir. Un mot quand même sur le palmarès de Patrice en 30 ans avec Montpellier. Il y a 2 Ligues des Champions, 14 titres de champion de France, 13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue, 3 Trophées des Champions. Et effectivement, hier, on t'a eu très, très ému au moment d'annoncer cela en conférence de presse. Hein.
Oui, depuis une semaine, en vérité, jusqu'à la semaine dernière, tout allait très bien. Et puis depuis une semaine, tout m'amène à me retourner sur le passé. Moi, j'aime pas trop ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie. Et c'est un moment, c'est un partage entre une forme de gêne, parce que j'aime pas trop ça, mais aussi de satisfaction.
Et comment as-tu choisi ce moment? Parce que tu l'as dit, hein, t'as senti que c'était maintenant. Ça aurait pu très bien être l'année prochaine, dans 2 ans. Pourquoi maintenant?
Déjà, avant de faire les 30 ans à Montpellier, j'avais fait 5 ans au Paris Saint-Germain. Donc ça fait 35 ans ininterrompus, dont 34 ans en Coupe d'Europe, à jouer 2 matchs par semaine. Voilà, ouais, c'est ça. Il a fallu bien calculer, mais je les ai quand même. Je les ai. Non, je crois que l'histoire avec Montpellier, c'est une histoire extraordinaire dans le sens véritablement, ça n'arrive pas, des histoires comme ça. Et je n'avais pas le droit quelque part de gâcher cette histoire-là. Il fallait bien la finir. Et donc, je pense que c'était ma responsabilité de dire à un moment donné stop. Voilà, j'arrête. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai aussi d'autres projets pour plus personnels. Et si je les fais pas maintenant, je les ferai jamais. Donc c'est peut-être le
c'est
moment.
C'est quoi alors? C'est-à-dire? Ah, tu peux pas nous, faut nous le dire.
Un petit peu. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas de... déjà, je suis engagé au niveau politique puisque je suis conseiller régional et j'ai des missions importantes et intéressantes au niveau de la région Occitanie.
Tu as travaillé aussi... pour Wauquiez.
Non. Mais ça, tu vas me faire pendre là, non, pour Carole Delga. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est intéressant parce que c'est dans ma région et ça me plaît de rendre. Et puis après,
mais ça, c'est un emploi fictif, ça, là, en réalité. Qu'est-ce que tu
Non, j'interviens pas mal dans le monde de l'entreprise sur toutes les problématiques de management et je vais aussi intervenir dans le domaine du sport sur de l'audit et du conseil pour les clubs sportifs.
Philippe Saint-André,
ouais, si t'as besoin d'un conseil pour l'oseille, il y a Philippe Saint-André qui veut te dire un truc.
D'abord, Patrice, bravo. Après rester 30 ans dans un club, moi, le maximum que j'ai fait, c'est 5 saisons à Sale. Par contre, je voulais te poser une question. Et si l'équipe de France t'appelle, qu'est-ce que tu fais?
L'équipe de France, je sais pas, et bon, pour le moment, ils sont en place, mais c'est vrai que la seule chose qui m'aurait fait basculer, c'est n'importe quelle équipe pour aller au JO à Paris, j'aurais pris n'importe quelle équipe, les hommes, les femmes, une équipe forte, une équipe pas forte, pour connaître les Jeux Olympiques et coacher au niveau des Jeux Olympiques, ça m'aurait tenté. Pour le reste, pour le moment, j'ai refusé des propositions et je n'ai pas envie de réentraîner de suite. Mmh. Mais j'ai pas dit que j'arrêtais ma carrière. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, le manque sera là ou je ne sais pas. Aujourd'hui, je dirais non. Ouais, mais je n'ai pas fermé la porte.
Mais ça, effectivement, le staff est en place, mais les Bleus, ça c'est quelque chose qui vous motiverait encore.
C'est la seule chose qui manque à Patrice par rapport à sa carrière.
Dans 2 ou 3 ans, vous pourriez replonger pour les Bleus?
Non, je serais trop vieux à ce moment-là.
C'est toi, maintenant t'es jeune encore. 63 ans, t'es bien
fait. Non, mais soyons clairs, aujourd'hui l'équipe est bien en place, elle a un entraîneur qui est performant, tout va bien. Vous savez, quand on prend un poste quelque part, c'est qu'objectivement, on pense qu'on peut faire mieux et qu'on peut amener des choses nouvelles. Oui. Et l'équipe de France, ils gagnent tout. Donc, ils n'ont pas besoin de moi pour le moment. Si un jour, ils perdent tout, peut-être j'irai, mais pour le moment, ils gagnent tout. Donc,
quel a été ton secret pour rester 30 ans? Explique-moi. Là.
Écoute, je vais te dire, Philippe, quelque chose qui va te parler à toi et à beaucoup d'autres entraîneurs, c'est que les gens m'ont fait confiance. Parce que je fais un métier où si les gens ne te font pas confiance, tu n'existes pas.
Et les joueurs les joueurs,
et c'est pour ça que je vais les remercier, alors ceux qui sont là, mais tous ceux qui ont précédé. Si les joueurs ne te font pas confiance, entraîneur, tu n'existes pas, et si les dirigeants ne te font pas confiance, tu n'existes pas. Alors après, il y a ta volonté à toi, mais je connais beaucoup d'entraîneurs qui ont la volonté de rester et où on ne leur fait pas vraiment confiance.
Le pire joueur que tu as eu, c'était lequel? Le mec que tu dis, lui, il n'a pas dégagé encore.
Alors, c'est une vraie belle question, parce que il y a vraiment des joueurs pénibles. Alors je dirais pas de nom, mais il y a vraiment des joueurs. Si je veux en dire, Bojinovic par exemple, j'ai eu pendant 10 ans, c'était un joueur pénible.
Mais quand je dis pénible, c'était
chaque chaque fin de saison au mois de mai, j'avais envie de m'en débarrasser. Je disais, tout le monde venait me voir, il faut s'en débarrasser, mais je l'ai gardé 10 ans.
Il était terrible ce joueur. Il était exceptionnel.
Il te faisait gagner, quoi.
Voilà.
Et donc, et donc, moi, je veux bien accepter des joueurs chiants quand ils font gagner, quoi. Ceux qui sont embêtants, c'est ceux qui sont chiants et qui ne font pas gagner.
Patrice Canaillet en direct dans le Moscato Show. Alors, il s'est passé quand même un truc très désagréable cette saison à Montpellier. Vous avez vécu une déflagration en Ligue des Champions avec un match aller remporté de 9 buts face à Kiel et donc un match retour perdu de 10, ce qui vous prive en plus d'un Final Four. Est-ce que cet épisode-là t'as pas donné envie de continuer pour pas finir sur ce traumatisme?
C'est la colère est toujours là, la blessure, la cicatrice est toujours là. Je n'ai fait aucun commentaire sur ça parce que c'est trop à vif et j'ai une analyse sur ce qui s'est passé qui est une analyse à la fois par rapport à l'équipe de Montpellier mais sur aussi l'évolution du sport de très très haut niveau et les comportements des équipes dans la très très haute compétition qui par moments se liquéfient un peu quand le niveau monte et voilà, pour le moment c'est encore trop à vif mais il viendra un temps un peu plus tard où j'écrirai un petit peu sur ça parce que je pense que c'est lié à Montpellier mais il n'y a pas que Montpellier et des fois vous poser souvent des questions intéressantes sur pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas dans l'analyse du sport de très très haut niveau, pourquoi à un moment donné ça bute au niveau des Coupes d'Europe. Très souvent, on cible l'entraîneur comme le problème numéro un.
Mais parce que c'est
quelquefois il est, mais il y a certainement d'autres phénomènes à analyser.
Est-ce que tu en veux à tes joueurs de ne pas t'avoir offert ce dernier Final Four?
Ah non, mais ils n'ont rien à m'offrir, les joueurs.
Non, mais est-ce que tu en veux de leur performance?
Non, j'en veux pas. Enfin, j'en veux à beaucoup de monde. Donc, j'en veux à tout le monde. À moi en premier et au monde entier, quoi.
Après, c'est difficile d'analyser. Toi, tu es tout le temps en train d'essayer d'analyser pourquoi tu gagnes, pourquoi tu perds. Mais en vérité, c'est difficile, c'est pas palpable. C'est compliqué et plus le niveau est élevé, plus ça se joue à des détails. On le dit bien, c'est très con ce genre de phrase, ça se joue à des détails parce que le sport de haut niveau, c'est très bien que ça se joue à des détails. Mais c'est justement ces détails qui sont inexplicables. C'est qu'à un moment donné, ton meilleur joueur, ben, il manque un petit truc parce que celui d'en face, il l'a. C'est tout simplement.
Je pense que la dimension émotionnelle aujourd'hui est un élément, c'est l'élément majeur dans le sport de très très haut niveau. C'est-à-dire que arrive dans le professionnalisme sur la partie athlétique, sur la partie tactique, sur la partie technique, les joueurs ils sont super bien préparés, ils n'ont jamais été aussi disciplinés, ils ont des muscles qui regorgent de partout. Ce qu'il faut muscler à un moment donné, c'est le cerveau.
Et c'est la gestion
émotionnelle. Et je trouve qu'aujourd'hui, les équipes d'aujourd'hui sont beaucoup plus disciplinées, sont beaucoup plus fortes tactiquement, sont beaucoup. Il y a des data, il y a tout ce qu'on veut aujourd'hui.
C'est le bulbe.
Mais ouais, je crois. Je crois que là-dessus, il faut aller plus loin, il faut mettre plus la pression pour pouvoir travailler sous pression. Il faut apprendre à travailler sous pression.
Le bulbe. Vous voulez dire que ce que l'on a gagné en préparation, en professionnalisme, on a perdu au niveau du, au niveau du combat, au niveau de sa capacité de mental, quoi.
Oui, mais alors,
ça n'a pas suivi.
Je suis pas non plus pour que on réduise le sport à un affrontement de bêtes qui se rentrent dedans. Il y a toute la dimension technique et tactique. Mais la maîtrise émotionnelle est quelque chose d'essentiel. Et quelque part, je crois qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus faible aujourd'hui que hier dans ce domaine.
Patrice. Dernier mot, Patrice, c'est important parce que le hasard fait que ce sera demain aussi le dernier match en club de Nico Karabatic. Ouais. Vous avez été évidemment ensemble à Montpellier pendant 4 ans et puis il y a eu l'affaire des paris qui a laissé beaucoup de traces. La dernière fois qu'on t'a eu à l'antenne, tu nous avais dit ou fait comprendre que la cicatrice n'était pas complètement refermée. Est-ce que maintenant que l'un et l'autre, vous allez arrêter? Enfin, tu vas pouvoir peut-être passer à autre chose, peut-être même oublier, pardonner.
Ouais, on pourra même se dire, bonjour. J'ai connu Nico, j'ai travaillé avec son père. Son père a été membre du staff de Montpellier pendant des années. J'ai connu Nico, il était tout petit. J'ai travaillé avec lui. Il est parti, il est revenu. On avait un lien qui était un lien extrêmement fort avec son papa, avec lui, avec son frère, avec la famille Karabatic. Donc forcément, il y a eu un épisode qui a été dévastateur d'un point de vue humain et puis après le temps fait son œuvre et petit à petit, je ne dis pas que les choses se normalisent parce que les choses ne peuvent jamais totalement se normaliser, mais le temps fait son œuvre, la raison aussi et puis Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un immense champion. C'est pas parce qu'on a eu des différends à un moment donné, c'est un immense champion. Et quand je parlais de compétitif et de joueur compétitif, c'est ce genre de joueur qui te fait gagner. Voilà. C'est pour ça qu'à tous les gens qui se disent, est-ce qu'il faut qu'il aille aux Jeux Olympiques ou pas aux Jeux Olympiques, moi, si je suis, je le prends de suite. C'est le numéro 1 que je mets.
Est-ce que vous allez lui envoyer un petit message demain pour sa dernière, Nico?
Ah, mais ça, je vous le dirai pas.
Patrice, juste dernière question, puisque tu veux faire du consulting. Tu n'as pas été contacté par un club qui jouait comme ballon ovale à côté de chez toi là-bas pour les aider peu, non?
Patrice Cassier, dans le Super
Je leur souhaite le meilleur. C'est une situation difficile, mais je leur souhaite le meilleur.
On va être champion olympique, Patrice?
Et là, j'espère qu'entre les garçons et les filles, on réussira au moins à ramener un titre, oui.
Ça t'a aiguisé.
Et si on avait les deux, ça serait formidable.
Ce métier-là, quand même, je le sens quand tu parles. Tu es très strict, tu es très dur. Ce métier t'a aiguisé, t'as cette personnalité, mais ces 35 ans entraînés t'ont rendu quand même, rigide, mais au moins semi-rigide, quoi, quand même.
Merci beaucoup, Patrice. Merci. À très bientôt.
Merci, bravo.
Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Et alors, ces dernières, vous les vivrez, bien sûr, sur RMC. C'est bien sûr, c'est la dernière journée du championnat de France de handball. Mais le handball, ça continue cet été avec les Jeux Olympiques. Journal moyen tout de suite.
La première édition avec le retour de... Alors sur France 5, ils ont la grande librairie. On a mis eux la grosse librairie. Nous allons entendre une nouvelle expression que je ne connaissais pas. Sortie à l'Assemblée nationale. Nos députés nous apprennent des choses. Il faut profiter parce que
parle de qui court, Eric. Ces députés. Il faut que gueuler alors qu'ils sont dégourdis pour la plupart. 15h44, le Super Moscato Show vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h46, le Super Moscato Show, c'est le soir le moyen, première édition d'Adrien Gouin.
La première édition. L'actu, la culture, les médias, la France, les expressions françaises. Une députée nous offre une nouvelle expression que tu vas apprécier, Vincent.
Tout à fait.
Gros coup dur pour un milliardaire. Oh, il a du service ce matin, il va se dire, oh là là, ça va pas du tout.
Ouais, la bourse.
Je sais pas comment ils vont faire, comment il va faire. Et puis, une guitare à vendre, Eric. Vous écoutez RMC. T'as bien cet extrait, Vincent de Derrick.
C'est génial.
C'est le 1858e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
On aime les mots, on aime les expressions françaises. C'est pas la grande librairie, ça on le laisse à France 5, ils ont les droits. Nous on a les droits de la grosse librairie avec le générique.
Je ce livre aux allures de fable moderne qui est un hymne à la liberté.
Ça se passe dans une centrale électrique à une époque, je pense, plutôt vers le 19e siècle.
L'histoire de 4 enfants, 3 frères et une sœur dans une vallée perdue.
Très passionnant, mais un peu dur sur la société, des livres sociétals. Buveur de vin à Frank Bouys chez Albin Michel. Ouais. C'est un drôle de mec, ça.
Je redécouvre toujours des petits détails, des petits bonbons dans cet extrait. Moi, ce que j'aime bien aux dernières écoutes, c'est plutôt vers le 19e siècle.
Oui, plutôt.
Il n'y a pas vraiment de... Frank Bouys, il écrivait, il dit, bon, je sais pas trop où je suis, dans quelle époque, je sais pas. On aime les nouvelles expressions dans le journal moyen, nouvelle expression. Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. D'habitude, c'est un peu chaud. Là, question d'une députée, gauche démocrate et républicaine, NUPES de la Réunion, Vincent. Et bien, donc, elle cite, elle a une question pour monsieur le Premier ministre, Gabriel Attal. Elle cite André Chassaigne, député historique qui a toujours des bonnes formules. Magnifique question au Premier ministre de la députée Lebon.
Le Premier ministre, vous dites une chose, vous faites exactement l'inverse. Je citerai André Chassaigne pour illustrer ce propos. Vous avez la queue du renard qui vous sort par la bouche et vous dites encore que vous ne l'avez pas croqué.
Excellent.
Elle est bien celle-là.
Moi je ne la connaissais pas.
Tu te rappelles de lui, il était du côté de Saint-Etienne, il avait un accent de là-bas très très fort.
Mais je crois qu'il est toujours
Il est toujours élu, oui. Il est communiste, c'est je crois, André Chassaigne.
Elle pose ça avec un ton, ça arrive totalement inattendu. Attendu quoi, c'est on leur écoute.
Le Premier ministre, vous dites une chose, vous faites exactement l'inverse. Je citerai André Chassaigne pour illustrer ce propos. Vous avez la queue du renard qui vous sort par la bouche et vous dites encore que vous ne l'avez pas croqué.
Voilà.
L'image est belle. Magnifique.
Donc on apprend des choses de l'Assemblée nationale, bravo.
Le mec, il arrive avec la queue de renard qui dépasse la
bouche. C'est que le queue de renard. C'est pas
grave. Éric, un petit édito politique également, c'est le moment, Éric, tu veux 30 secondes.
Des queues de renard qui sortent de la bouche des députés.
écoutez,
il y en a quelques-uns.
Et ton enquête sur Manuel Valls, Eric, également.
Ah, mais ça progresse ou pas? On avance, on surveille.
Allez, le petit point Artus hebdomadaire, Vincent.
Voilà.
Les chiffres sont tombés, Vincent. Tu es un spécialiste, analyse les chiffres d'Artus, de son film. Un petit truc en plus. Eh bien, en 4 semaines, 4,5 millions de spectateurs.
C'est le plus chéri.
C'est déjà le 7e
meilleur. Non, il ne va pas faire 5, il va faire 10.
C'est déjà le 7e meilleur score d'un film français sur les 10 dernières années. Ouais, parce que là, après seulement 4 semaines d'exploitation.
Ça va être. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quand on fait à peu près dans les 10, alors, 12, non,
il se passe quelque chose, c'est que les spécialistes de ciné sur les sites ne savent plus quoi pronostiquer. Parce que c'est irrationnel. La courbe est largement au-dessus du Guinée de Con. Qui avait réalisé 9 millions de spectateurs. Donc là, ils sont partis pour faire peut-être 12, 13, 14.
Mais le placard, 5 millions.
Oui, voilà.
Je rappelle, tout simplement. avec l'humilité. Mais je crois que ça s'auto-alimente, c'est ça, cette histoire-là. C'est-à-dire,
tu peux pas ne pas le voir, en fait. Tu
voilà, c'est la fameuse boule de neige. C'est-à-dire, le mec, il dit, vous l'avez pas vu, le truc, machin.
Vous l'avez vu ou pas? Est-ce que vous allez y aller, d'ailleurs?
Moi, je vais y aller. Je vais y aller.
Denis Charvet est allé hier, par exemple.
Ce genre de film, je vais pas aller voir au cinéma.
Hier, il a bien aimé. Et c'est un producteur de cinéma. Il a trouvé le film très bien produit.
Oui, ça c'est pour. Ça c'est les mecs, tu sais, non, ils vrai, veulent nous expliquer. Mecs qui veulent nous expliquer, qui connaissent mieux le cinéma que nous, tu sais. Oh, ouais, c'est bien produit. Il y a une belle lumière. Il y a une belle lumière.
Surtout, à présenter des films à Cannes.
Bien sûr.
Par contre, on n'en a plus entendu parler derrière.
Pour le coup, on est plutôt content, c'est un bon mec, Arthus. Parce que le cinéma, il y a tellement de parfois, tu nous dis, de trop.
Mais c'est super, parce qu'en plus, tu en comptes, c'est son premier film. Et alors, il jouit d'un truc incroyable. C'est que, bon, des fois, il faut un peu de baraka pour la réussite d'un truc. Tu vois, il jouait le suspect, n'avait pas du tout marché. Oui. Ce film-là, qui était extraordinaire, n'avait pas du tout marché. Il avait ressorti un an après. Donc, il pleut.
En plus, c'est génial.
Tu vas au cinéma.
C'est extraordinaire.
Non, attention, tu vas au cinéma.
Là, c'est pas Denis Charvet.
Mais tu vois, je pense que la série de Tom Cruise tournée sur le bassin d'Arcachon, c'est toi, Vincent.
Non, mais j'y suis.
Tu vas même la produire.
Il était chez William. Il était à la corniche.
Mais oui, il a dormi dans son lit.
Il paraît que tous les matins, c'est levé, il boit des coups. Il paraît que tous les matins, il a pas un petit déjeuner Delta Plan. Il paraît.
T'imagines.
Il n'y a que de renard qui n'est passé.
Tom Cruise, il croit qu'il va dans un palace et il se retrouve qu'avec des rugbymen.
Les mecs, il faut des paquitos et tout.
Qu'est-ce que tu lui racontes? Tu le croises dans l'établissement de ton pote, tu lui dis quoi, Tom Cruise?
Il lui arrache ses chaussures, il fait caca dedans, il lui remet ses vêtements, c'est tout. Hein.
Vive la France!
Quelle est sa chambre? Hop, donnez-moi les clés, boum, il va avoir un petit cadeau sous les draps.
Vincent, tu serais étonné, c'est un pins.
Oui, c'est un pins. Mais bon, William, t'es chaud aussi. Hein, donc, voilà.
On parle d'argent.
Au revoir, président. Au revoir.
C'est ce truc horrible. Je suis à bloc, moi, de défiscalisation. Je peux plus balancer le tulum.
Ah bon?
ce truc-là, si vous pouviez en ce moment. c'est vrai, ça, quand même. Ouais,
quand même, non, c'est égal. Sur Twitter, une réaction de monsieur Bruno Le Maire. Merci. énorme pensée pour lui. Il va en avoir besoin de soutien, Vincent. Énorme pensée pour Bernard Arnault, le patron de. Le grand patron de LVMH. Aïe. Vous allez me dire, il connaissait un peu des gens riches, j'imagine, plus que Pierrot et moi. Ce matin, il a peut-être des notifications sur son téléphone, ses assistants l'appellent. Selon Bloomberg, c'est la référence. Il a perdu la première place. Il a perdu la première place au classement des plus grandes fortunes de France. Jeff est passé devant lui, Jeff Bezos. Monsieur.
Du monde.
Jeff Bezos pèse 205 milliards de dollars. C'est juste une histoire de cotation à la bourse qui a baissé. Est-ce que vous pensez que Bernard Arnault, quand il a pris ça, est-ce qu'il a pas dégoûté?
Il a pas pris le petit déjeuner. Il a serré la ceinture. Il a dit, on s'est levé le matin.
Par orgueil et par fierté,
le mec, il a dit, on met croissant. Il a dit non. Parce que c'est des trucs, c'est indépendamment de lui. C'est la bourse.
Ça dépend de la bourse.
C'est pas. Mais là, il se la mesure, là, quand même.
Ah, je pense que ça compte.
Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais il regarde le journal, il fait, Firmin, amenez-moi le journal.
Ah, parce qu'il s'appelle Firmin, monsieur.
Le majeur. Firmin, ils s'appellent tous vous ou toi. Voilà, toi là-bas, tu vois, donc le mec il arrive avec le cigare sur le journal sur un plateau en argent,
repassé,
bien sûr, pour pas que ça fasse de traces sur le bout des doigts. Et puis il lit, et puis là, boum, il voit que Jeff Bezos se lui a foutu le crayon, il l'a vu dans le rétro, il est passé devant, et il se dit, mince, quand
bon
même.
Bon courage, monsieur.
C'est
Arnaud.
On partira pas assez trop haut, on ira à Narbonne, tout simplement.
Sans transition, pour terminer.
Le problème, c'est que c'est les impôts. Il faut leur baisser les impôts, ces gens-là.
Pierrot,
on va leur supprimer les impôts. coup. Tant qu'à faire, allons-y.
Pourquoi il rachète pas l'OM, Bernard Arnault, d'ailleurs? Je me suis toujours posé la question.
Parce qu'il s'associe.
C'est pas c'est parce que c'est pour ça que. Pourquoi il est riche? Parce qu'il fait pas n'importe quoi.
Voilà. Ça, c'est là-bas. François Pinault investit à Rennes. Il dit ça va.
Il y va. Mais c'est son club de cœur.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, il faut quand même avoir une raison, une attache.
Musique,
mais vous inquiétez pas, moi. Je sais que ça va taper fort.
Une guitare utilisée, c'est une guitare, non. C'est pas une basse. Hein.
Ouais, ouais.
Utilisée par John Lennon pour l'enregistrement audio et vidéo de l'album Help des Beatles, a été vendue aux enchères. À votre avis, parce qu'elle a été retrouvée dans des déménagements, etc. Elle a été authentifiée.
Ouais, ça, moi, je m'en
ça faisait 50 ans qu'elle n'avait pas été aperçue ni entendue en public. Elle a été vendue par téléphone. C'est quelqu'un qui n'était pas sur place au Hard Rock Café de New York. À votre avis, elle est partie à combien?
$1 million.
Un million.
Ça peut être plus. Hein.
5 millions. J'ai une guitare acoustique Outani à 12 cordes, Eric, toi qui joues de la basse.
5 bars.
5 bars pour Philippe.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite.
Une barre.
Il y a une icône absolue. Il y a des gens complètement dingos.
Mm. Ouais, mais quand même, c'est des sous. En plus, t'es pas sûr de ton coup, là. Tu sais pas si c'est la bonne guitare. Hein.
Non, c'est authentifié.
Authentifié.
Tu as un certificat.
Quand tu vois que sur le marché.
2,9 millions de dollars. 2,9 millions de dollars. L'avis d'Eric sur le sujet.
Ça fait combien de temps que vous êtes mis à la guitare?
Non, pas longtemps, ça fait à la basse, c'est pas pareil.
Pourquoi tu riais comme ça? C'est curieux.
Allez, on va refaire le point sur les matchs de Roland Garros avec notamment ce Zverev Goffin, Anthony Reich, pas Eric Salio aujourd'hui. Anthony.
Ouais, écoute, sur le Suzanne Lenglen, Alexander Zverev est en train de prendre la mesure de David Goffin puisque l'Allemand mène désormais 2-7 à 0. Et sur le cours central, Yann Paris vient de s'incliner face à Elina Svitolina, 6-4-7-6. Et c'est le numéro 1 mondial qui vient d'entrer en piste, Novak Djokovic, qui entame son deuxième tour face Karbaïs Baena et un jeu partout entre les deux hommes.
Eric, c'est impossible de chanter quand tu fais de la basse, c'est comme la
batterie. Non, ouais, Sting, Sting fait quoi, Sting? Ah ouais. Sting est bassiste, il chante pour le Level 42, le chanteur Marking, il joue de la basse.
Chanter,
mais c'est vrai que c'est vrai que comme la basse, c'est pas il y a dur, plus de guitaristes, il y a même des batteurs qui chantent.
Mais
la basse, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu
chantes, parce que j'ai l'impression que dans votre groupe vous avez besoin d'un chanteur.
Non, arrêtez-vous. Vous m'avez traumatisé le petit Axel, arrêtez un peu.
Saint-Etienne, club du passé ou club du futur?
Oh,
Vincent,
avec un
problème sur RMC.
Ça a envie de bosser.
Quelle histoire, c'est 4-7. Le super Moscato Show revient tout de suite.
Amazon vous livre Roland Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video. Abonnement payant obligatoire, voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
RMC jusqu'à 18h.
Le super Moscato Show.